Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière-Abdel Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bonjour.
Bon, alors on va parler de ce sondage léger, le mensuel qu'on attend tous les mois pour voir à quel point les choses ne changent pas ou presque pas au Québec, Dominique. La CAQ qui trône toujours en avance, qui est allée rechercher un petit 2 points, et donc on revient au niveau avant couvre-feu, avant frustration. Là.
Je vais le dire, disons, démocratiquement, c'est presque indécent. Là. C'est-à-dire que la CAQ a presque 30 points d'avance sur le deuxième, qui sont le PLQ, qui sont à 18. Donc, 28 points d'avance pour la CAQ, c'est quand même quelque chose. Et on n'a pas vu ça de mémoire récente. Évidemment que la polarisation à plusieurs parties l'encourage, mais le fait que toutes les oppositions, sauf le PQ qui est un peu plus loin, est dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire PLQ, Parti conservateur et QS qui se tiennent dans 5 points. Ça aussi, c'est rien pour aider parce que on peut se dire, bon, avec la manière dont le vote est étendu, oui, il y a des régions où est-ce que les libéraux, des régions où est-ce que QS, des régions où est-ce que le PQ pourrait surperformer. Mais quand tout le monde fait à peu près 20%, puis t'en as un autre qui court seul en avant, c'est lui qui va finir par gagner. Fait que là, je sais pas si dans le prochain léger, on va nous dire que la CAQ pourrait gagner 140 sièges sur 125, mais c'est à peu près vers ça qu'on se dirige là.
Ouais, pis ça doit être tough, Yasmine, aussi pour l'opposition quand on regarde ça, de se dire ben de toute façon tout le monde au Québec est persuadé ou presque que la CAQ va gagner, même si on veut que ce soit Éric Duhaime, même si on veut que ce soit Québec solidaire, même si on veut que ce soit les libéraux. De façon réaliste, quand on regarde des chiffres comme ça, c'est sûr que la CAQ gagne.
Ben, il y a aucun doute. Là. T'sais, quelqu'un qui pourrait prétendre le contraire ou garder un espoir, il vit d'amour et d'eau fraîche. il regarde pas les mêmes affaires que nous. La vérité, c'est que c'est assez extraordinaire ce que la CAQ fait. Là, il faut le reconnaître, de s'être maintenue depuis le début de son mandat, haut dans les sondages, traverser une pandémie, encore plus augmenté jusqu'à la toute fin. On est à 3-4 mois des élections, et de continuer à creuser l'écart à coup de 1 point, 2 points, 3 points, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'espère que François Legault va écrire un livre pour expliquer comment il fait ça, parce que ça visiblement, sa recette, elle fonctionne. Les oppositions, il n'y a rien de bon qui s'annonce pour eux, mais j'ai l'impression de dire cette phrase-là une fois par mois à chaque fois que le sondage sort.
Mais oui, au moins, l'hémorragie au Parti libéral semble être un peu jugulée. Là.
Ben oui, mais quand il y a plus de sang dans les veines, c'est sûr qu'elle est jugulée, là, l'hémorragie. Là, plus de sang qui coule, à certains moments, l'hémorragie, elle termine. Le PQ à 2%, c'est à 2% qui pensent que ce serait le meilleur premier ministre.
Que Paul Saint-Pierre Plamondon ferait le meilleur premier ministre, il y a seulement 2%. C'est moins que le nombre de monde qui veulent voter pour le PQ. Là.
C'est moins que le nombre de personnes qui... c'est la marge d'erreur. Là. On va dire que c'est presque zéro. Là. Il n'y a personne qui pense que Paul Saint-Pierre Plamondon ferait un bon premier ministre. Enfin, c'est à peu près ça la vérité. C'est pas des bonnes nouvelles pour le PQ. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir un peu bâtir sur la presque victoire de Marie Victorin pour pouvoir se donner un nouveau souffle, utiliser ça comme un tremplin pour pouvoir se définir les adversaires et remonter dans les sondages, mais pas du tout. Je pense que si Marie Victorin avait lieu aujourd'hui, le score serait encore plus déterminant pour la CAQ. J'ai l'impression qu'on s'en va dans une élection où on connaît déjà le résultat avant même de l'avoir commencé.
Ouais, ça va être une question de plus de savoir combien est-ce qu'ils vont perdre des sièges à Québec. Parce que là, Dominique, à Québec, la question, c'est Éric Duhaime est fort là-bas quand même. Là.
Exact, on le met autour de 25%. La question, c'est est-ce qu'il est en train de coaliser tous ceux qui n'allaient pas voter pour la CAQ de toute façon? Donc, est-ce que c'est un 25% de gens qui se retrouvaient un peu chez les libéraux, un peu au Parti québécois, un peu ailleurs, puis que là, tout d'un coup, ils se ressemblent sous la même bannière? Si c'est le cas pour la CAQ, c'est pas si dangereux. C'est des gens qui n'allaient pas voter pour eux de toute façon. Probablement que très bien concentré, et si M. Duhaime fait campagne beaucoup dans la circonscription qu'il a choisi de, dans laquelle il a choisi de se présenter, il peut gagner un siège, là. Mais pour la CAQ, moi, je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est de regarder la composition donc du vote d'Éric Duhaime. Est-ce que c'est des gens qui partent de la CAQ pour aller voter Duhaime? Ça, c'est problématique. Est-ce que c'est des gens qui, de toute façon, n'allaient pas voter pour la CAQ? Là, c'est pas un voyant rouge, c'est un voyant jaune. Je veux revenir sur le Parti québécois 30 secondes. C'est ma marotte, hein. À chaque sondage, on parle de la fermeté de la décision des électeurs. Puis, à chaque sondage, on disait les péquistes préfèrent François Legault, plus ou moins. Et là, c'est une autre... la dernière fois, PSPP était le premier chez les électeurs péquistes. Puis on disait finalement, tu sais. Mais là, on regarde la fermeté de la décision. Seulement 34% des péquistes disent que leur choix est définitif. Donc, non seulement ils sont à 8, mais il y a 34% des gens qui disent « ouais », puis le reste dit « on pourrait changer ». Et c'est le vote le moins ferme de tous les partis. Et d'assez loin, le deuxième parti, où est-ce que les gens disent « on pourrait encore changer », c'est QS, c'est à 47%. Donc, les électeurs les plus sûrs de leur vote, c'est les conservateurs. Ça bouge pas, sondage après sondage. Après ça, c'est la CAQ. Puis ensuite, ça se promène. Mais là, je sens qu'il y a un décrochage de la part des électeurs péquistes. Et c'est très dangereux. J'ai hâte de voir le prochain sondage parce que ça va être les suites du projet de loi 96. Là, ça a été fait manifestement au début du débat sur l'adoption. Est-ce qu'il va y avoir une espèce de retour d'électeurs péquistes qui se disent « c'est vrai, 96, ça va pas assez loin ». Le problème avec ça, c'est quand tu rentres l'autre donnée, c'est-à-dire ceux qui pensent que M. Saint-Pierre-Plamondon ferait un bon premier ministre, quand tu as un débat de crédibilité sur la langue entre François Legault et Paul Saint-Pierre-Plamondon, premièrement, il y a beaucoup d'électeurs qui disent entre François Legault et qui, puis ensuite, dans les électeurs qui connaissent M. Saint-Pierre-Plamondon, c'est pas sûr qu'ils ont une opinion positive de lui. Fait que c'est très difficile pour le PQ en ce moment d'être vu comme étant crédible et une alternative viable à la CAQ, notamment sur des dossiers comme celui-là.
Yasmine, y en a qui disent en 6 mois en politique, c'est une éternité. Il reste à peu près à ça, là, 6 mois avant la prochaine élection, même un peu moins. Ceci dit, c'est un 6 mois avec 2 en plein été. Donc ça, on s'entend, on parle très peu de politique de façon générale. Les gens y pensent pas et c'est tant mieux. C'est souvent assez bon pour le gouvernement aussi parce que les choses vont quand même bien habituellement. Puis après ça, il va nous rester une courte campagne électorale, là, je présume, que si François Legault va vouloir faire ce cours. Est-ce qu'il y a des choses que les partis d'opposition peuvent faire pour changer, pour essayer de rebrasser la dynamique ou c'est de dire, regarde, on continue avec le plan de match, puis on garde le plan de match, puis on garde la tête basse, puis il faut qu'on continue avec le plan de match. C'est pas le temps d'essayer des nouvelles esbroufes parce qu'on a fait déjà pas mal puis ça n'a pas fonctionné.
Mais je pense pas que c'est le moment d'innover pour les partis d'opposition. C'est le moment de sauver les meubles. C'est le moment de pouvoir limiter les dommages que ces sondages révèlent qui vont avoir lieu le 3 octobre. Donc, on voit que depuis que Dominique Anglade, notamment, a choisi de changer le ton, notamment sur le respect des minorités, la défense des minorités, ça a arrêté l'hémorragie auprès de les intentions de vote chez les non-francophones. Peut-être pourra-t-elle continuer à utiliser ce ton-là, ce message-là, pour essayer encore là cette stratégie de sauver les meubles. Mais je me dis que c'est plus arrêtable à ce stade-ci. Là. Ce sont plusieurs sondages qui se succèdent et qui disent exactement la même chose. Moi, si j'étais Éric Duhaime, ma priorité d'ici les prochaines élections, c'est de monter une machine solide de sortie de vote, une sortie de pointage et de sortie de vote, parce qu'aujourd'hui, sans avoir une machine électorale derrière lui, il est quand même capable d'avoir des sympathisants qui pourraient, notamment dans la région de Québec, lui permettre d'aller chercher un ou deux sièges. Encore faut-il être capable de faire sortir ce monde-là voter, parce que souvent, c'est des anti-systèmes qui ne croient pas en ce système de vote. Mais là, plus que jamais, la machine électorale pourrait jouer, pourrait avoir un impact sur le Parti conservateur et sa capacité à transformer des intentions en des votes dans des boîtes de vote le 3 octobre prochain. Donc moi, si j'avais quelque chose à faire dans les 3 prochains mois, c'est créer une machine solide de sortie de vote pour le Parti conservateur du Québec.
Mais un petit mot, parce qu'il y a quand même un gros volet sur l'inflation là, dans ce sondage-là. Le chèque de 500 $ par exemple, puis à peu près 66 % des Québécois qui l'ont reçu. Plus de la moitié ont dit qu'ils ont payé loyer, épicerie avec ça. Les gens sont satisfaits, mais disent 500 $ c'est pas assez. À 60 % ça en prend plus. C'est que la CAQ, c'est quand même un gouvernement de sondage, là. Quand Yasmine disait, il va falloir que François Legault écrive un livre, ça risque d'être au moins un ou deux chapitres de dire on suit les sondages et ça nous aide à faire plaisir aux électeurs. Quand on voit un sondage comme ça, est-ce qu'on se dit on redonne un chèque ou c'est le moment où là, le gouvernement dit je suis tellement en avance que je suis capable de prendre des décisions qui sont justes, bonnes, mais peut-être un peu impopulaires?
Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le titre que Yasmine a en tête pour le livre sur François Legault, mais ça fera peut-être une autre discussion.
Monsieur 45%.
Je sais pas si c'est Yasmine, je suis pas sûr que ça va. Je vais te laisser choisir ton propre titre. Mais ceci étant, tu sais, la valse hésitation de la CAQ sur cette question-là, hein, Monsieur Legault avait laissé entendre que peut-être. Puis là, finalement, son cabinet a dit que non. Puis là, après ça, le ministre des Finances a dit ouais, c'était pas prévu comme ça. Tu sais, moi, je pense qu'il y a encore des ballons d'essai qui se lancent. Puis où est-ce que ces ballons d'essai-là vont tomber? C'est des sondages comme celui dont on parle aujourd'hui qui nous permettent de le voir. À quel moment est-ce qu'on se dit, OK, c'est assez, l'avance qu'on a est suffisante? Tu sais, est-ce que les gens qui entourent M. Legault, les gens qui préparent la campagne électorale au parti, sont rassasiés? Est-ce qu'ils se disent, on est allé chercher tout le jus qu'on pouvait de l'ensemble des sondages publics et privés dont on dispose? Ou s'ils se disent encore, non, c'est la pédale dans le fond, nous, on dormira pas jusqu'au 3 octobre, puis tant qu'on n'aura pas écrasé tout le monde, ça, c'est le bout qu'on connaît pas. Parce que ça peut jouer effectivement dans la volonté, je pense, gouvernementale ou partisane, de se dire pourquoi pas un autre petit bonbon, puis pourquoi pas un autre petit bonbon, puis pourquoi pas un autre petit bonbon.
Yasmine?
Il y a certains qui disent que ça pourrait être une promesse électorale qui pourrait s'inscrire, tu sais, au cours du mois de septembre, de dire écoutez, on sait que vous avez besoin d'un autre 500 $, nous on promet de vous l'envoyer dès cet automne.
Mais ça serait pas trop gros?
Ben, honnêtement, là, on est-tu rendu à se poser cette question-là? Philippe Vincent, tu penses-tu que quelqu'un se pose cette question-là? Déjà, le premier était trop gros, mais le deuxième, maintenant, le tapis rouge, il est là, tu sais. François Legault va dire la majorité de la population le veut, parce que c'est comme ça qu'on décide. Puis, il aurait raison, parce que moi, si on me dit, on te donne 1000 piastres, là, puis que Léger m'appelle sur mon cellulaire, je vais pas dire, voyons donc, non, c'est grossier. C'est sûr que je vais dire non.
Tu vas pas dire que tu t'es gâté, que tu vas dire, ben, j'ai payé l'épicerie avec, et t'allais dans les dépenses courantes. Yes, Dominique, un petit mot sur la fin de session?
Ouais, je voulais dire que hier j'ai vu une photo et je trouvais ça bien sur Twitter. C'était l'ensemble des gens qui sont en train d'étudier le projet de loi 35 qui réforme la loi sur le statut de l'artiste. Et il y avait donc évidemment les gens qui sont passés en commission, les équipes des différents députés. Il y avait aussi donc Madame Saint-Pierre, il y avait Madame Dorion, il y avait la ministre. Et donc c'est une loi qui, on se demandait si ça allait être déposé, ce projet de loi-là. Alors ensuite, quand ça a été déposé, on se demandait si on allait avoir le temps pour l'adopter. Et contre toute attente, tout le monde s'est mis en mode, OK, faut le faire parce que ça fait plus de 30 ans que les artistes le demandent. Il y a eu une superbe collaboration là-dessus. Puis je me disais, sur cette photo-là, je voyais des élus qui ne se représentent pas, Madame Saint-Pierre, Madame Dorion, et tu sais, qui se disent, on va profiter de la fin de session pour aller ajouter quelque chose à notre bilan parce que c'est leur bilan aussi. Elles ont travaillé à améliorer ce projet de loi-là. Puis je me disais, s'ils sont capables de faire ça pour le projet de loi 35, ils semblent être en mesure de le faire pour le projet de loi 2, qui est la réforme sur la loi de la famille. C'est un gros projet de loi, plus de 300 articles, mais il y en a 200 qui ont déjà été adoptés. Donc, vont-ils pouvoir le faire dans les deux prochaines semaines? Il y a aussi toute la question de l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Donc, on sent vraiment qu'il y a des oppositions. Et c'est pas parce qu'elles avaient le pied sur le frein avant nécessairement, mais tout le monde, en fait, je vais refaire ma phrase, tout le monde est en mode collaboration. Et je pense que ça va être au bénéfice de plusieurs citoyens, notamment, là-dedans, on le dit, les artistes, les gens qui font de la gestation pour autrui ou les gens qui veulent élargir l'aide médicale à mourir.
Est-ce que ça va être la même collaboration, Yasmine, pour la fin de l'état d'urgence? Parce que, il me semble que ça brette, ça, là.
Pas sûr.
On va-tu être en état d'urgence cet été encore?
Ben oui.
Ben voyons donc.
Ben bien sûr que oui. Il n'y a pas de levée d'état d'urgence. Puis le projet de loi, anyway, il prévoyait que les dispositions de l'état d'urgence seraient levées le 31 décembre 2022. Tu sais, fait que, anyway, même s'il était adopté, on serait cet été en état d'urgence, notamment des quelques dispositions qui continueraient à être là. mais il n'y a aucune volonté visiblement des partis d'opposition d'accélérer l'adoption de ce projet de loi. Et il n'y a aucune volonté visiblement du gouvernement de pallier de manière exécutive dans son rôle d'exécutif à finalement la non-adoption de ce projet de loi-là. C'est assez particulier. Personne n'en parle. On dirait qu'on s'est habitué à être en état d'urgence puis qu'on aime ça puis que finalement...
Mais je pensais à ça cette semaine. Tu sais, je pensais au projet de loi qui restait. Je me disais, hey, on l'a toujours pas adopté, celle-là. On est toujours techniquement en état d'urgence.
On est techniquement en état d'urgence. Tu peux aller à Walmart, pas de masque, mais l'état d'urgence, il est là pour te surveiller, Philippe Vincent.
On va en donner de la pub, puis on va en faire des contrats sans appel d'offres. Dominique, c'est toi aujourd'hui qui avais la suggestion musicale en ce vendredi. Explique-nous ça et pourquoi tu as choisi cette chanson-là.
Mais parmi les honneurs que tu nous fais, il y a celle de choisir des chansons chaque semaine, puis on se dit qu'il faut utiliser ça convenablement. Hein?
Alors
là,
ouais.
J'ai une chanson cette semaine qui s'applique à la contestation de la loi 21 et de la loi 96 par le gouvernement fédéral, s'applique peut-être à la suite de la vie du Parti conservateur, parce que on a vu l'espèce de match de lutte là dont on a parlé hier et qui a eu lieu avant-hier à Laval, et c'est peut-être que les indépendantistes, c'est pourquoi ils prient. Hein? Ils se disent peut-être qu'avec 21 96, il va y avoir une étincelle, comme on va l'entendre dans la chanson, qui va nous permettre de rallumer la flamme indépendantiste. Johnny Hallyday, allumez le feu.
Aïe, 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 Yasmine, Dominique, salut à vous deux.
Bye, bye.
Quelle excellente version en plus.